Olivier, alors peut-être qu'il peut y avoir une réponse directe, hein, peut-être, parce qu'il y a, on sent qu'il y a des buts polémiques en tout cas, donc je te laisserai bien sûr répondre là-dessus, mais on vient aussi de parler des élites, c'est-à-dire des responsables finalement politiques qui désertent les théâtres, c'est-à-dire qu'ils désertent aussi la fréquentation des œuvres et des artistes. C'est aussi cet éloignement-là des œuvres et des artistes, parce que ce qu'on entend aussi dans politique culturelle, c'est aussi le soutien aux artistes. Là, on vient beaucoup de parler en fait, de rapport au public. On vient très peu de parler, il me semble, hein, on vient de parler de thèmes participatifs, etc. Mais on a finalement très peu mis, j'ai l'impression, les artistes au cœur presque de ces processus, en tout cas de politique culturelle. Donc voilà, l'éloignement des élites, c'est une chose que tu constates aussi dans ton livre, Olivier, et tu le constates dans ce premier, je crois que c'est le premier chapitre, qui s'appelle « La dépolitique culturelle ». Alors qu'est-ce que tu entends par ce concept de dépolitique culturelle? Il est assez parlant, mais voilà, qu'est-ce que tu constates en tout cas?
Alors, c'est pas un concept, c'est plus simple que ça, plus humble que ça. Après, je répondrai sur la joute et je maintiens que je n'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas investir le champ politique. Au contraire, je dis juste que la fonction du théâtre n'est pas la même que celle du champ politique, mais que dans le champ politique, on aille défendre le théâtre. C'est même ce que j'essaye de faire depuis quelques temps. Donc je ne crois pas du tout que la crise de la démocratie représentative soit inéluctable et qu'il ne faille pas se battre pour des nouvelles formes de représentativité et notamment des nouvelles formes partitaires. Mais je reviendrai sur la joute tout à l'heure. Sur la dépolitique culturelle, alors moi j'ai pas la science de l'Observatoire, même si je me sers d'un certain nombre de notes que peut produire l'Observatoire à Grenoble, qui est une mine vraiment d'informations et de perspectives. Moi je me suis placé à un autre endroit qui est toujours dans mon espèce d'attraction pour la question politique. J'ai beaucoup lu ces dernières années sur ce qu'on a appelé le néolibéralisme. Alors le problème du néolibéralisme, c'est qu'aujourd'hui c'est employé partout, par tout le monde. C'est devenu un mot caoutchouc pour désigner des réalités tout à fait disparates. Donc dans ma bouche, néolibéralisme, c'est pas un cache-sexe pour ne pas parler de capitalisme. C'est une des séquences du capitalisme. Je m'appuie sur les travaux. Alors il y a beaucoup maintenant, on a quasiment le néolibéralisme décliné dans tous ses aspects. Moi, je m'appuie beaucoup sur le travail d'un philosophe et d'un sociologue qui s'appelle Christian Laval et Pierre Dardot, qui ont produit il y a maintenant une dizaine d'années un livre que je crois très important, qui s'appelle « La nouvelle raison du monde ». Et ils ont essayé de penser quelle était la logique interne du néolibéralisme. Alors, je vais arriver à la dépolitique culturelle. La logique interne du néolibéralisme, pour eux, pour la schématiser, je suis désolé de la schématisation que je vais proposer, on va dire qu'elle a deux aspects majeurs. Le premier aspect, il relève du capitalisme le plus classique, c'est une offensive de privatisation du monde, comme régulièrement le capital propose des offensives de privatisation du monde. C'est une nouvelle offensive qui naît dans les années 70, on peut la dater plus ou moins, on peut discuter sur les époques. Et on voit bien qu'on en est à privatiser les fonds sous-marins, on a privatisé l'air, on a privatisé l'eau, on a privatisé nos nuits, hein. Une partie de ce colonialisme intérieur, c'est la publicité, c'est la loi du marché. Bon. Cette chose-là, elle va avoir des répercussions très fortes, me semble-t-il, par rapport à la notion même de service public, mais je vais y revenir. L'idée, c'est qu'il est insupportable pour le capital que des pans entiers soient exemptés de la loi de la marchandise, ou ce qu'on appelle la loi de la valeur. Donc, première chose, et ça, le capital a toujours fonctionné par des Alors, il y va quand il a un rapport de force qui lui est favorable. Hein. Donc là, il a un rapport de force qui lui est très favorable. On a essayé de mettre des coins, on a perdu, on est à terre. On sait bien que la disparition des services publics est programmée si on ne fait rien pour l'empêcher. Le deuxième facteur que mettent en lumière Dardot et Laval est plus singulier au néolibéralisme. Alors, il faut faire attention parce que le néolibéralisme, on a tendance à imaginer une espèce de théorie du complot derrière où il y aurait... Non, ce n'est pas une théorie du complot. Il y a effectivement des penseurs qui ont pensé une idéologie qui se sont retrouvés dans les années 30, puis après, juste après-guerre. Et c'est pas du tout... ils ont activé le monde, ils ont fait de la politique. Ils ont fait de la politique. C'est-à-dire qu'ils ont donné les moyens de gagner, ce que peut-être de l'autre côté on a un peu oublié, à savoir ils sont dotés d'universités, d'universitaires, ils ont mené des bagarres intellectuelles et idéologiques, et ils ont comme ça, donc c'est la société du monde pèlerin, c'est là aussi très documenté, je pense. pense au film de Naomi Klein et d'autres, qui proposent cette histoire-là. Leur idée force, dès les années 30, c'est qu'il y a un danger, le communisme, donc l'étatisation, la collectivisation, et ils ont une autre idéologie en opposition. Leur idée force, c'est que tout doit être conçu comme une entreprise. Le modèle civilisationnel, c'est le modèle entrepreneurial. Donc, l'État doit se penser comme une entreprise, et avec Macron, on a pété la timbale. Je vous rappelle quand même, quelques jours avant son élection, la Startup Nation. Un président de la République qui pense un pays, même pas comme une entreprise, là, comme une start-up, dit la conscience historique, hein. Bon, une start-up, la start-up nation. Donc l'État va se penser comme une entreprise, et vous voyez bien aussi comment aujourd'hui le Premier ministre est un petit DRH qui convoque les ministres en disant « ça vient de Sarkozy », en disant « vous n'avez pas bien respecté votre machin », bon bref. Donc on a l'État dans sa structure même, et quand on circule un petit peu, ou quand on traîne dans les couloirs dans les ministères, c'est glaçant. Mais c'est pas que ça, c'est aussi les théâtres et les théâtres publics qui sont devenus des entreprises, qui se pensent comme des entreprises, avec des contradictions qui, là, ont tendance à devenir extrêmement violentes. Et ça n'est pas complètement un hasard, même si je ne veux surtout pas laisser penser que le monde du théâtre était un monde pacifié il y a quelques décennies, mais qu'on ait assisté à un certain nombre de rapports de force violents à l'intérieur des boîtes, avec des burn-out, avec de la souffrance au travail, dans des centres dramatiques nationaux ou dans des scènes nationales, et certainement des mouvements vont repartir là très prochainement, tant il y a de souffrance, et de souffrance évacuée, évincée, baignée, puisque le milieu culturel est normalement, on se considère comme un milieu progressiste dans lequel il n'y a pas de rapport de force, de rapport de classe et de rapport de domination, sans parler des violences sexuelles. Donc les théâtres se pensent comme des entreprises, et l'immense force du néolibéralisme, c'est d'avoir fait de chacun, nous, un petit entrepreneur. C'est l'auto-entreprise comme modèle existentiel, comme modèle de vie. Donc on a des coachs de vie, on anticipe sa vie, on gère le risque, etc., etc. Et la grande force de ça, c'est d'avoir mis chacun en concurrence contre tous à chaque instant. Et d'avoir inventé pour ça un certain nombre de leviers merveilleux qui s'appellent notamment l'évaluation. Voilà. Chez les universitaires, c'est un kiff total puisqu'on adore évaluer. Donc ils appuient à un endroit où... Et on est tous devenus les évaluateurs de chacun, on passe notre vie à évaluer. Et voyez bien comment vous aussi, bon, on renvoie des fiches d'évaluation dont on sait bien la bêtise par ailleurs. C'est-à-dire qu'elles ne correspondent généralement absolument pas à la réalité de ce qu'on fait. Et on sait bien qu'on truque tous... alors je ne sais pas à quoi sert cet enregistrement, mais... On truque tous plus ou moins parce que... Et donc, ce qui remonte en haut, c'est une image complètement potemkin de la réalité, puisqu'on répond à l'attente supposée ou intériorisée, bon, et que les critères sont d'une bêtise infinie, dans ce, en tout cas dans ce qu'on demande. Bon, bref. Donc, le néolibéralisme, c'est ça, c'est ces deux jambes-là, nouvelle offensive du capital pour qu'il ne reste plus rien de public. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, un des enjeux décisifs va être la défense du secteur public. Et la crise atteint un point là un peu majeur de contradiction et d'antagonisme. On voit bien que cela leur est insupportable, et tout, de Parcoursup pour l'enseignement, pour l'éducation nationale, à ce qui va se passer. Il était question du tout à l'heure avec Jacques des partenariats public-privés, espèce de tentative de fracasser la frontière entre le public et le privé en disant « mais il y a des choses bien dans le privé ». Évidemment qu'il y a des choses bien dans le privé. La question n'est pas artistique, la question est celle des missions de service public. Évidemment que le théâtre privé a été grandiose dans l'histoire de l'art au XXe siècle, voire évidemment. La question n'est pas celle-là, la question est celle des médiations, des relations publiques, la question est celle des missions, la question est celle des obligations de création qui ne sont pas les mêmes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une offensive tactique extrêmement forte. C'est le théâtre de la Porte Saint-Martin qui fait venir Pomera, c'est pas inintéressant quand même, la privatisation de l'argent public, c'est-à-dire que de l'argent public sert à des créations, c'est-à-dire qu'on va socialiser les dépenses et on privatise les recettes. Alors il n'y a pas de recettes en l'occurrence parce que le budget est tellement gros que c'est un coup de com' et c'est une offensive idéologique que mène Jean-Baptiste Charrier, mais quelque chose se joue là, et on voit bien le discours du ministère. C'était Réginald Chambou il y a quelques temps à Avignon, il y a 2-3 ans ici, en disant « bon allez, arrêtez de penser comme avant le mur de Berlin, etc. etc. » Donc offensive contre le secteur public de la culture, et deuxième chose, modèle entrepreneurial à chaque instant. Et ce qui m'a intéressé, et ce néolibéralisme, je reviens au dernier livre de Dardo et Laval, qui s'appelle je crois « Ce cauchemar qui vient », il y a « cauchemar » dans le titre, pointe du doigt une chose que je trouve passionnante, qui est qu'aujourd'hui il y a encore une contradiction de classe, on l'a vu avec les gilets jaunes, mais cette contradiction de classe se tourne d'une autre contradiction, qui est une contradiction entre capital et démocratie.
Il est insupportable, dans la volonté aujourd'hui qu'a le néolibéralisme, qu'il rencontre des obstacles et des résistances. Vous voyez bien comment les choses passent en force, des ordonnances, une multiplication des ordonnances, une multiplication, alors moi je suis bien placé pour le voir dans les universités, dans les regroupements universitaires, les règles changent au fur et à mesure de leur nécessité contingente, c'est quand ils se prennent un mur avec un serveur, on change la règle, etc. On n'arrête pas de réécrire le droit en fonction du projet supposé, donc les instances démocratiques ne sont plus des instances démocratiques, une répression policière, une violence que moi je n'en ai jamais connue dans ma vie militante en ce moment, ces derniers mois. Ce qui est potentiellement atteint, c'est le cadre de la politique même.
Ouais.
Hannah Arendt avait au tout début de son livre, je crois que c'est jugé, elle a une inquiétude, elle dit « Et si la politique venait un jour à disparaître ?» Je crois fondamentalement que c'est le projet néolibéral. Alors, il va rencontrer des résistances, la chose n'est pas foutue du tout, il y a des résistances incroyables, il y a des inventions, on n'est pas du tout dans une période atone en termes de lutte, en termes de résistance et en termes d'invention. Mais donc, pour répondre à ta question, des politiques culturelles, c'était d'essayer de penser les politiques culturelles dans ce macrocosme-là, dans cette logique-là, dans cette dynamique. Alors après, il y a des singularités, parce que le monde du théâtre public a ses singularités par rapport au monde de l'enseignement supérieur, par rapport au monde de l'hôpital, etc. Mais donc, par des politiques culturelles, l'enjeu, c'était de dire ce qui se joue derrière, c'est tenter de retrancher la politique des politiques culturelles, c'est-à-dire, encore une fois, la possibilité d'une alternative, la possibilité de délibération démocratique, la possibilité même d'un secteur qui ne répondrait pas aux lois de la marchandise, qui serait exempté. Et on a, encore une fois, là, on a perdu des bagarres. Et je prends juste un exemple, mais regardez comment, entre le début des années 70, pour avoir relu les textes des socialistes et des congrès socialistes dans les années 70, où l'idée c'est de dire quand même que l'art et la culture ne sont pas des marchandises, comment dans les années 90, on est passé à 80, à l'art et la culture ne sont pas des marchandises comme les autres, c'est pas une petite régression, et aujourd'hui comment, pour défendre l'art et la culture, un certain nombre d'artistes, d'intellectuels, etc., sont en train de dire qu'il faut le défendre parce que ce sont des marchandises rentables avec le tourisme, ça participe au produit intérieur. C'est-à-dire que nous avons intériorisé une partie du discours de la domination.
Oui, parce qu'il y avait en 2003, d'ailleurs, quand il y a eu notre grande crise des intermittents, je veux dire, et là on a été d'une certaine manière collaborateurs de ça aussi, c'est-à-dire que pour trouver le dernier argument auquel on a été acculé, c'était de dire, mais nous rapportons de l'argent. C'est-à-dire, nous sommes une valeur économique. Et ça, je pense que ça a été une erreur politique fondamentale, puisqu'on n'arrête pas d'utiliser aujourd'hui cet argument. Et aujourd'hui, ce qu'on demande aux artistes, je pense que ça a été un moment charnière, ce qu'on demande aux artistes, alors, la plus-value économique, c'est dur de la trouver dans la création artistique. Par contre, il faut qu'on aille chercher d'autres plus-values. Et peut-être, et tu en parles aussi dans ton livre, c'est les missions on assigne aux artistes aujourd'hui, qui relèvent peut-être, vous n'avez pas de plus-value économique, alors ayez au moins une autre plus-value, peut-être une plus-value sociale, une plus-value sur le vivre ensemble, enfin voilà.
Ouais, ça rejoint, alors peut-être juste une phrase que j'aime beaucoup de Brecht qui dit « On ne s'identifie pas impunément à l'adversaire, ça laisse des traces ». Après, moi je pense que l'argument économique, ou en tout cas l'argument de la participation au produit intérieur brut, peut être un argument tactique. Hein. Le problème c'est quand il devient un argument stratégique. C'est-à-dire quand ça devient une raison d'être. Mais tactiquement, on objecte ça à des élus, à des tutelles, pourquoi pas, enfin, je veux dire, on a le droit d'être rusé, comme disait là aussi Brecht. La question, c'est quel jeu on joue avec la ruse. Il ne s'agit pas du tout de venir défendre une version immaculée de la politique. Moi, je pense que la politique, c'est aussi... Ce qui me passionne dans la politique, c'est que ce n'est pas pur. C'est que c'est des compromis, c'est des rapports de force. Il faut inventer des raisons de gagner là-dedans. Donc, c'est pas un combat moral. Donc, encore une fois, on peut dire, oui, on rapporte beaucoup au produit intérieur brut. La question, c'est qu'est-ce qu'on croit de cet argument. Pour reprendre ta deuxième question, elle rejoint la question des élites. C'est pas moi qui dis que les élites n'y vont plus, après je peux le constater, vraiment, c'est Olivier Bic. Je lui pose la question un jour et il dit, mais nous, le problème, c'est pas les publics populaires, globalement, en termes de statistiques, on est à peu près dans des étages, alors peut-être ce sera infirmé. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la haute bourgeoisie, les hauts fonctionnaires, tout ça, ils vont à Aix. Mais il n'y a plus Avignon. C'est-à-dire que le théâtre est devenu archi-ringard pour eux. Alors, et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on peut... Alors, de manière empirique, moi, je n'ai pas d'études, hein, mais quand on fréquente des hauts fonctionnaires, quand on fréquente des chefs, des capitaines d'industrie, quand on fréquente la haute fonction publique ou les études à la haute fonction publique, alors il y a des questions de formation. On voit bien qu'aujourd'hui, une partie des élites sont formées dans les écoles de commerce ou de management. Ce n'est pas du tout la même que la sacralisation de la culture. qui par ailleurs avait ses limites hein, aussi, de venir dire que l'art et la culture ça protège de la barbarie, que dalle hein. Ça a été, parfois ça les a même encouragés, donc il y avait tout un discours un peu mensonger, puis un discours de Bourdieu insister, un discours de distinction de classe, donc il ne s'agit pas du tout de regretter, c'est la merveilleuse formule de Brecht qui dit la question n'est pas de regretter le bon vieux temps, mais de s'occuper du sale mauvais présent. Donc la question, on ne va pas le recruter, bref. Donc effectivement, moi je crois qu'il y a une déconnexion des élites qui n'y vont plus, une partie, et une partie qui y va est quand même très très inculte. C'est-à-dire, ceux qui y restent, quand on discute avec eux des œuvres, c'est quand même très très naze, hein. Je veux dire, c'est des rapports de mode, espèce de allez parler avec les hauts fonctionnaires au ministère de la Culture. C'est les engouements, les emballements moutonniers pour des œuvres qui donnent des signes de la modernité, c'est assez passionnant. Et là, il y aurait une étude à faire avec des entretiens qualitatifs pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment, quoi. Et c'est glaçant, parce qu'ils ont une image de ce qui... Encore une fois, le théâtre est tellement un art ringard pour eux qu'ils ont une image de la modernité sans imaginer un instant que la modernité qu'ils véhiculent a déjà 25 ans de retard. Bref. Et ça, c'est secondaire, je vous dis, c'est très empirique et très intuitif. Et effectivement, je crois que face à des élites pour qui, en tout cas, le théâtre n'est plus central, pour qui le recours à la culture n'est plus une évidence, et peut-être que précédemment, c'était une évidence posée, elle n'était peut-être pas du tout intériorisée. De fait, quand il y a besoin de sortir de l'argent public, la question, c'est à quoi ça sert ? Alors, ils peuvent comprendre le soft power, il y a un certain nombre d'artistes qui, à l'export, sont plutôt très, 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 très bien. Après, il va falloir trouver d'autres valeurs. Alors, moi, je date, même si ça vient d'avant, et qu'il y a eu des... Pour moi, le discours de Manuel Valls est assez passionnant là-dessus, c'est-à-dire de venir enrégimenter l'art dans la défense de la République et de la civilisation occidentale après les attentats. C'est intéressant parce que ça succédait à deux années de baisse du budget du ministère de la Culture, sous la gauche, ce que la droite n'avait jamais osé faire. Ça ne veut pas du tout dire que c'est Valls le point zéro. Hein. On a laissé des tendances très longues, et qui est de venir dire, on veut bien vous donner un peu d'argent, mais il faut qu'on trouve à quoi vous servez. Quoi. Et donc tout le monde a commencé à intérioriser ce discours de l'utilité immédiate. Alors ça peut produire des choses magnifiques d'aller bosser dans des prisons, dans des écoles, dans des hôpitaux. Moi j'ai bossé 20 ans de ma vie avec un homme qui s'appelait Armand Gatti, et qui n'a jamais rechigné à aller travailler avec des populations, etc. Mais sauf que c'était à son initiative, et c'était pas avec des cahiers des charges, d'une bêtise. Et je finis, je vais enfin me taire, ce qui est assez passionnant là-dedans, c'est que l'État ou les tutelles, parce qu'il y a les collectivités locales, et ça a été dit, sont en train de demander aux artistes de venir faire un travail d'animation sociale, au moment même où on désingue les animateurs sociaux, où on a désingué les éducateurs de rue, où on a flingué la PJJ. Et pour moi, la question, c'est pas du tout de venir dire c'est déchoir pour un artiste de venir faire un travail social. La question, c'est qu'un travail social, c'est un métier. Et artiste, c'est un autre métier. Et dans ces deux cas-là, ce qui disparaît, c'est la question de l'œuvre. Je prends un exemple d'un étudiant, d'un ancien élève à moi, qui me racontait qu'il maintenant a créé sa compagnie et qui a eu de l'argent d'une collectivité locale pour faire un spectacle pour jeunes publics. Coup de bol, les tutelles sont venues voir le spectacle. Il n'y a pas une tutelle dans la salle, c'était quatre. Qui a regardé le spectacle, qui a regardé les gamins pour voir comment ça réagissait. Donc il ne peut pas y avoir de discours sur l'œuvre au sortir, il ne peut y avoir qu'un discours genre « ça a bien marché ». Et ça dit quelque chose, je crois, fondamentalement, d'une transformation, en tout cas symptomatique de la situation.
Voilà, je ferai un...